série sur l'évangile de Luc au chapitre 15. Et ça, c'est un chapitre extraordinaire. J'ai pensé au début que j'allais pas prêcher sur l'ensemble, mais je pense que c'est difficile de ne pas prêcher sur l'ensemble. Alors, on va faire la lecture du chapitre 15 en entier, versets 1 à 32. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Et il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore « Un homme avait 2 fils. » Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, et celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Ici, dans ce chapitre, il semble que les paroles que le Seigneur a prononcées dans le chapitre précédent, chapitre 14, toutes ces paroles semblent avoir attiré des publicains. Les publicains, c'est des collecteurs d'impôts pour le compte de Rome et pour le leur. Donc c'était des gens assez peu recommandables, des gens qui étaient des collaborateurs. Et puis il est cité aussi que des gens de mauvaise vie, toutes sortes de voleurs, de prostituées, tout cela s'approchait de Jésus. Ils étaient comme attirés par lui. Bien que Jésus ait condamné leurs péchés, beaucoup savaient qu'ils avaient eu raison de le faire. Ils se plaçaient quand même de son côté contre eux-mêmes, dans une attitude de repentance authentique. Et ils reconnaissaient Jésus comme le Seigneur. Dans les versets 7, dans les versets 10, dans les versets 18 et 19, on voit que chacun est animé d'une profonde repentance. Mais les pharisiens ne voient pas la chose du même œil. Chaque fois que Jésus rencontrait des personnes conscientes de leurs péchés, il allait au-devant d'elles pour les aider spirituellement et les bénir. Et les pharisiens et les scribes n'appréciaient pas du tout cette amitié de Jésus pour des invités notoirement ou des individus notoirement pécheurs. Ils ne manifestaient aucune compassion pour ce genre de personnes qu'ils considéraient comme socialement et moralement comme des lépreux. On n'a pas de contact avec eux. Ils s'irritaient contre Jésus qui, lui, leur témoignait de la bonté. Ils lui reprochèrent d'accueillir des gens de mauvaise vie et même de manger avec eux. Vous savez, manger avec quelqu'un, c'est vraiment sympathiser avec lui, c'est vraiment se lier avec lui. Et l'accusation était fondée. Mais ils pensaient que cette attitude était blâmable, alors qu'elle ne faisait que traduire le but même pour lequel le Seigneur était venu sur la terre, savoir chercher et sauver ce qui était perdu. Et donc, en réponse à leur critique, le Seigneur raconte trois paraboles. La brebis perdue, la drachme perdue, et puis le fils prodigue, ou devrait-on l'appeler plutôt la parabole des fils perdus. C'est donc à l'intention des pharisiens et des scribes que ces paraboles ont été données en premier lieu. Les deux premières servent, je crois, à introduire la troisième qui met directement en cause les pharisiens et les scribes qui n'avaient jamais connu le brisement et reconnu qu'ils étaient perdus devant Dieu. En réalité, ils étaient tout aussi perdus que les publicains et les gens de mauvaise vie, mais ils refusaient obstinément de le reconnaître. Ce matin, je vous propose de voir que quand vous avez perdu quelque chose qui vous est cher, vous la cherchez. Les histoires racontées ici par Jésus sont d'une extrême simplicité, n'est-ce pas ? Elles font appel au bon sens, elles font appel au devoir et à la réaction naturelle de chacun. Jésus interpelle les scribes et les pharisiens avec cette expression « Lequel d'entre vous, s'il avait 100 brebis et qu'il en perde une, ne se mettrait en peine pour la retrouver ?» C'est le rôle même du berger que de veiller sur les brebis qui lui sont confiées. Un berger, c'est la première règle qu'il apprend, un berger ne doit pas perdre une brebis, même s'il en a 100. Alors, vous savez que pasteur, ça veut dire berger, hein ? Donc vous voyez un peu dans quel état d'esprit on est, nous. Aucun berger ne rentre chez lui après une bonne journée dans les pâturages en disant à sa femme « Oh chérie, c'était vraiment une bonne journée, il a fait beau. » Et j'ai perdu une seule brebis. Mais bon, tout va bien, il m'en reste encore 99. On dirait, mais ce gars, il est fou. Parce que s'il continue comme ça, dans 3 mois, il est au chômage. Dans 3 mois, il n'a plus rien. Non, ça n'existe pas. Souvenez-vous de tous les bergers dans la Bible, il y a quantité de bergers. Jacob était un berger avec le troupeau de Laban, son beau-père. Il dit, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les brebis et les béliers de ton troupeau. Je n'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait le jour et ce qu'on me volait de nuit. C'est-à-dire, voilà, tu m'as confié les brebis, je t'ai rendu toutes les brebis. Vous vous souvenez de David ? Avant qu'il soit roi, il faisait paître les brebis de son père. Il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais, la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais à la gorge et je le frappais et je le tuais. Ça veut dire que dans la pensée de David du berger, l'option de perdre une brebis n'était pas envisageable. Jésus lui-même, lorsqu'il se présente à nous comme le bon berger, il dit au chapitre 10 de l'évangile de Jean et au verset 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main, personne ne les ravira de ma main ». Ça, c'est notre assurance, parce que nous avons un berger, et que le berger ne perdra aucune de ses brebis. Au chapitre 17, dans sa prière sacerdotale, et au verset 12, il prie, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Le rôle de berger, c'est de garder les brebis. Les brebis n'ont pas de système de défense, pas de cornes, pas de griffes, pas de crocs acérés. Elles sont légèrement stupides et peureuses. Elles sont la proie des loups, des parasites. Elles sont perdues dès l'instant où elles n'ont pas de berger. Un jour, Jésus descendait d'une barque et là, il voit une foule qui arrive vers lui. Et puis, il est ému de compassion pour cette foule qui est languissante parce qu'elle n'a pas de berger. Parce qu'elles sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, quand Jésus propose cette histoire aux scribes et aux pharisiens, tous connaissent la réponse. Un berger va laisser les 99 brebis pour chercher celle qui est perdue. La deuxième histoire renforce cette vérité. Lorsqu'une femme a 10 drachmes, une drachme c'est un denier ou ça équivaut à une journée de salaire. Si une femme a 10 drachmes et qu'elle en perde une, elle ne dira pas à son mari quand il rentrera à la maison « J'ai passé une bonne journée ». Je suis allé au marché, je suis rentré, et puis là j'ai renversé ma bourse dans la maison, et j'ai perdu 10% de nos économies. Mais c'est pas grave, il m'en reste encore 90%. Non, jamais, jamais une femme va dire cela. Quand vous avez perdu un billet de 100, vous ne dites pas, oh, m'en reste un, non. Vous le cherchez. Non, et elle ne se donnera pas de repos qu'elle n'ait retrouvé sa drachme. Elle allume une lampe, je vous ai dit ici, dans une maison qui disposait juste une toute petite fenêtre. Elle veut y voir clair. Elle va balayer un sol qui était en terre battue. Elle balaye toute la maison et elle cherche avec soin, nous dit la Bible, dans chaque recoin. Parce que personne ne peut imaginer qu'elle n'agisse pas ainsi. Quand vous avez perdu quelque chose qui vous est cher, vous la cherchez. Et quand vous l'avez retrouvée, vous vous réjouissez. Les versets 5 et 6 nous disent dans notre passage, lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, au verset 9, lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drame que j'avais perdue. J'aime cette expression, lorsqu'il l'a trouvée ou lorsqu'elle l'a trouvée. C'est pas écrit, si jamais elle la retrouve. Non. C'est lorsqu'il la retrouve. Parce qu'il ne va pas s'arrêter de chercher jusqu'à ce qu'il ait retrouvé sa brebis. Ça, c'est le travail du berger. Et pour la femme, c'est pareil. Elle va chercher jusqu'à ce qu'elle la trouve. Il n'y a pas d'alternative. Le berger s'arrête de chercher quand il a retrouvé sa brebis, qu'elle soit morte ou vivante. Et quand il l'a trouvée, il lui flanque un bon coup de bâton pour plus qu'elle recommence et puis il la ramène jusqu'à la maison en lui donnant les coups de pied. C'est pas exactement cela. Il est tellement content d'avoir retrouvé sa brebis perdue. Et souvent, quand il l'a trouvée, elle est languissante et abattue. Elle est parfois blessée. Elle est fatiguée. Assoiffée, apeurée parce qu'elle n'entendait plus la voix du berger. Et le berger le met avec joie sur ses épaules. Imaginez la scène, deux pattes de chaque côté, et puis il rentre à la maison. Une brebis, ça fait entre 25 et 40 kilos. Pour ceux qui font des déménagements, c'est un bon frigo, une demi-machine à laver. Non. Il la met avec joie. Vous imaginez la chose? Il la met avec joie. Ça fait comme ça. Vous voyez? Il la met avec joie sur ses épaules. Parce que c'est sa brebis. Et il se réjouit parce qu'il l'a retrouvée. Et une fois rentré à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il partage sa joie. Tous étaient inquiets pour la brebis. Tous étaient désolés pour le berger. Et tous sont soulagés et se réjouissent de ce qu'elle est retrouvée. Et la femme qui cherche sa pièce a passé toute sa journée à ranger sa maison à la recherche de sa pièce. Elle n'était pas disponible pour les autres femmes du village avant qu'elle ne les retrouve. Maintenant, ses amis qui avaient appris ses déboires se réjouissent avec elle parce qu'elle a retrouvé sa pièce. Quoi de plus naturel que de partager la joie de ce berger ou de cette femme? Comprenez ici, Jésus, il insiste là-dessus, sur la joie de ceux qui assistent à la chose. Il dit, si vous êtes amis du berger, si vous êtes son ami, alors vous vous réjouissez vraiment quand il retrouve sa brebis. Si vous êtes l'ami de cette femme, vous vous réjouissez vraiment qu'elle ait retrouvé sa pièce. Et quand Dieu a retrouvé quelqu'un qui était perdu, quelle est notre attitude? C'est pour ça que je pense que ces deux premières paraboles introduisent cette troisième. Lorsque Jésus raconte la troisième histoire, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un animal. Il ne s'agit pas d'une brebis sur un troupeau de sang. Il ne s'agit pas d'une pièce d'argent, d'une bourse qui en comptait 10, mais il s'agit d'un jeune homme, d'un fils sur les deux qu'avait un homme. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça signifie, vous voyez, une âme c'est bien plus précieux qu'une brebis ou qu'une pièce. Nos vies valent plus que tout ce que le monde entier peut offrir. Rien de comparable avec une brebis ou une pièce d'argent. Maintenant, quand vous pensez au ciel, qu'imaginez-vous ? Comment est votre ciel ? Oh, certains diront, oui, allez, oh, le ciel, c'est la paix. Au ciel, c'est vraiment la paix. Il n'y a plus de guerre, plus de disputes, plus de cris. Puis au ciel, c'est la sainteté. La sainteté, plus de péché. Et puis c'est la justice, c'est la pureté, c'est la gloire. Mais notez une chose, au ciel, et une des caractéristiques essentielles du ciel, c'est la joie. C'est la joie. Et c'est pour ça que j'ai mis là, partager la joie de Dieu. C'est ça, le ciel, c'est partager la joie de Dieu, c'est entrer dans la joie de Dieu. Vous vous souvenez, hein, dans les paraboles des talents, ce que dit le maître à ses deux premiers serviteurs, les deux qui ont été fidèles, il dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. En Luc 15, au verset 7, il dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et puis au verset 10, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et quand le fils aîné arrive, rentre des champs à la maison et que son fils a été accueilli par son père, qu'est-ce qui le trouble ? C'est la danse, c'est les chants, c'est les cris de joie. La joie inonde le ciel. Parce que dans la pensée de Dieu, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux que de sauver des pécheurs. Dans Romains chapitre 14, verset 17, Paul dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La joie de Dieu provient du salut des pécheurs. Notre Dieu est dans sa nature un sauveur. C'est un sauveur. Et la première caractéristique de Dieu, c'est qu'il sauve. Le nom Jésus, ça signifie Dieu sauve, l'Éternel sauve. C'est-à-dire que la passion de Dieu, c'est de sauver les hommes. Sa passion et son désir, ce qui le comble de joie, c'est de sauver des hommes pécheurs. Rien ne peut remplir son âme autant que cela. Dans le ciel de gloire, on lit dans l'Apocalypse au chapitre 4 que le ciel célèbre Dieu à cause de sa création. Ça c'est au chapitre 4, mais au chapitre 5, le ciel célèbre Dieu à cause du salut. Ils disent, oui, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la louange, parce que tu as été immolé, parce que tu t'es offert et parce que tu as racheté par ton sang un peuple immense. De toute langue, de toute tribu. Et c'est cela qui fait sa joie. Dans notre passage, on a lu ici, verset 10, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Ce n'est pas dit expressément, je pense que c'est le cas, mais ce n'est pas dit expressément que les anges sont dans la joie. Non, il dit ici « devant les anges ». Qu'est-ce qu'il y a devant les anges ? Mais il y a Dieu, et c'est Dieu qui est dans la joie. Et les anges voient tous les jours la face de Dieu. Et quand il est joyeux, ils sont joyeux. Et c'est ça. Et il est joyeux pourquoi ? Parce qu'une âme se repent et vient à la foi de son fils Jésus. Elle est accueillie et partage sa gloire. Le salut des pécheurs, ça exalte son caractère compatissant et gracieux. Ça exalte son caractère bienveillant et plein d'amour, miséricordieux et disposé au pardon. C'est cette joie que le Seigneur anticipait lorsqu'il s'offrait en sacrifice. En Hébreux 12, il est dit « Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix. Comprenez ça? Jésus s'est dirigé vers la croix parce qu'il avait en vue la joie d'amener des pécheurs au ciel simplement par l'offrande de son sacrifice. Le Père attend son fils cadet, celui qui a dissipé son bien d'une manière honteuse, et puis il court devant lui. Il le prend dans ses bras et puis il le rétablit immédiatement dans sa position de fils. Il lui donne un vêtement, il lui donne un anneau. Voilà notre Dieu et voilà ce qui fait sa joie. Le frère aîné, il est incapable de se réjouir avec son père. Il est incapable d'embrasser et de manger avec son frère cadet. Ce qui est naturel pour les proches du berger qui a retrouvé sa brebis et pour ceux de la femme qui a retrouvé sa pièce n'est pas naturel pour le fils aîné. C'est terrible. Si vous êtes l'ami du père, si vous êtes vraiment son ami, si vous êtes vraiment son fils, alors vous vous réjouissez avec lui de ce qu'il a retrouvé son fils, celui qui était perdu. Et lui, il ne peut entrer dans la maison et se réjouir, pas plus que les pharisiens ne pouvaient se joindre à la table de Jésus en compagnie des gens de mauvaise vie. Ils ne peuvent manger ensemble parce que ça signifierait qu'ils sont comme eux. Et ça les répugne. Ils se sentent bien supérieurs à eux. Ils sont meilleurs. Eux, ils n'auraient jamais agi comme les publicains. Eux n'auraient jamais agi comme le fils cadet. Ça va même plus loin, en fait. Quelque part, ça nous arrange, ou ça arrange le fils aîné d'avoir un fils, un frère si rebelle. Ça l'arrange, en fait. Vous comprenez pourquoi ? Parce que lui, il est resté à la maison. Lui, il est fidèle. Lui, il est obéissant à son père. Et il n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit. La comparaison, elle est là, visible au regard de tous. Alors, lui, ça le flatte. Lui, ça l'arrange bien. D'ailleurs, depuis son départ, il jouit d'une position exceptionnelle à ses propres yeux. La comparaison est flatteuse. Lui, il n'est pas comme son frère. Il travaille. Lui, il travaille dans la maison de son père. Il a même redoublé d'efforts pour montrer que lui, il est un bon fils. Mais quand son jeune frère admet enfin ses torts et qu'il revient à la maison, quand il est bien accueilli par son père, le frère aîné prend conscience que la comparaison n'a plus cours. Et ça le rend foudrage. Il est en colère. Il dit « Ah non !» Ça, c'est pas possible. Et là, on voit à quel point ce frère aîné est éloigné du cœur de son père. Et Jésus pointe ici l'état spirituel des pharisiens, des religieux, de ceux qui se croient bien et qui n'ont pas besoin d'être sauvés. En fait, en ne se réjouissant pas, il montre que ce sont eux qui sont éloignés du Père. Il montre qu'ils sont perdus. Tim Keller, là, dans son livre, il va même plus loin. Il dit que les frères aînés sont même la cause du départ du jeune frère. Parce qu'ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, prétentieux par rapport à leur obéissance, tellement propres justes, tellement satisfaits par eux-mêmes, tellement critiques à l'égard de celui qui ne fait pas aussi bien, que le jeune frère, il a dit, mais j'arriverai jamais à satisfaire mon père comme mon frère aîné le fait. Et il s'en va. Et il s'en va en claquant la porte. Et il espère trouver ailleurs un endroit où il va pouvoir s'épanouir. Vous voyez, ce qui est frappant ici dans cette troisième parabole, c'est qu'il n'y a personne pour partir à la recherche du jeune frère. On a dit, quand on a perdu quelque chose qui nous est cher, on va le chercher. Mais là, il n'y a personne qui se lève pour aller chercher le frère. Dans la première parabole, il y a un berger qui va chercher sa brebis. Dans la deuxième parabole, il y a une femme qui va chercher sa pièce, qui met tout son cœur. Mais dans la troisième, il n'y a personne. Qui aurait dû se lever et partir à la recherche de son frère, de ce fils? Mais c'est son frère. C'est son frère aîné aurait dû partir à sa recherche. Mais un tel voyage, ça avait un coût. Un tel voyage, c'était risqué. Peut-être retrouverait-il son frère ruiné et avec des dettes. Et donc, il aurait fallu qu'il s'acquitte des dettes de son frère. Ou peut-être l'aurait-il trouvé blessé. Et il aurait fallu régler la facture de soins et du médecin, sans compter la perte de temps et du manque à gagner dans l'exploitation familiale. Le frère aîné n'est pas parti à la recherche de son frère cadet. Il n'a montré aucun amour pour son frère, aucun. Il montre en cela qu'il est aussi perdu que son frère. Bien qu'en apparence proche du Père, il est désobéissant parce que sa place était à la recherche de son jeune frère jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvé, jusqu'à ce qu'il l'ait ramené à la maison. C'est cela qu'attendait le Père. Et puis Jésus adresse ces trois paraboles à l'intention des scribes et des pharisiens. Il leur montre dans cette dernière que parce que les deux fils sont perdus, il fallait que lui-même, Dieu fait homme, vienne et cherche les perdus. La croix qu'il a souffert est le prix qu'il a consenti à payer pour sauver les pécheurs que nous sommes. Oh, si une brebis c'était lourd sur les épaules d'un berger, la croix c'était encore plus lourd sur le dos de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le prix qu'il a consenti à payer, c'est le prix le plus élevé qui soit. C'est sa vie même qu'il offre en sacrifice. Et c'est là que nous mesurons la grandeur de l'amour de notre frère aîné, Jésus-Christ. Il n'est pas venu seulement sauver les jeunes frères, les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie, mais aussi les frères aînés, autant perdus, les propres justes, ceux qui ont placé leur confiance dans leurs œuvres, dans leur religiosité, dans leur obéissance aux commandements, et pas en Dieu. Le Père est sorti au devant de ses deux fils. On se souvient bien de ce jour où il est là, devant la maison, et qu'il voit de loin son fils, le plus jeune, avec des habits en lambeaux, puant le cochon. Et il arrive et il le prend dans ses bras. Il le change de vêtements, il l'accueille. Mais de la même manière, le père sort et il va au devant du deuxième fils, celui qui ne veut pas rentrer. Et puis il plaide avec lui. Il dit, viens, entre. Réjouis-toi avec nous. Partage la joie du ciel avec nous. Et la parabole s'achève avant que l'on sache ce que fera le frère aîné. Entrera-t-il ? Se réjouira-t-il ? Et je pense que c'est tout le combat qui se livre dans le cœur des pharisiens aujourd'hui, dans le cœur des personnes qui sont propres justes. Est-ce qu'ils réalisent leur état de péché, leur désobéissance, leur manque d'amour à l'égard de Dieu et de leur prochain, leur confiance en eux-mêmes et non pas en Dieu? Peut-être ce matin, vous vous êtes reconnu dans l'un ou l'autre de ses fils perdus, dans celui qui a tout envoyé promener et qui est parti vers un pays éloigné, qui a longtemps erré, ou bien dans le frère aîné qui vit dans la crainte, qui pensait plaire à Dieu par sa propre obéissance et qui se révèle en réalité sans amour pour son frère ni pour son père. L'un doit se repentir de ses mauvaises œuvres. L'autre doit se repentir de ses bonnes œuvres, entre guillemets, qui l'empêchent au fond de saisir Jésus comme son sauveur. L'offre est pour nous, pour chacun d'entre nous. Venez, entrez dans la joie de votre Père. Que vous soyez dans un pays éloigné ou bien à la porte de la maison, tant que vous n'êtes pas entré, vous ne participez pas à la fête. C'est pourquoi le Père plaide dans nos cœurs pour qu'on revienne peut-être de loin ou qu'on revienne de près, mais que d'une manière ou d'une autre, on entre et que l'on partage la joie du ciel. Entrez dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que ta parole, elle éclaire nos cœurs. Tu nous as tout donné. La vie, le mouvement et l'être. Pour certains d'entre nous, on a saisi ces choses et puis on est parti au loin, essayant de jouir d'une vie sans toi. Pour d'autres, on est resté près, mais notre cœur reste éloigné. On vit dans la crainte, ce que Dieu pourrait penser de nous. On cherche à être accepté par notre obéissance. Et du coup, on méprise l'obéissance de Christ qui s'est livré à la croix pour nous. Et Seigneur, on te prie pour que l'on soit un fils aîné ou que l'on soit un fils cadet. On puisse chacun entrer dans ta présence et être accueilli avec la même joie. Oh, parce que tu nous as aimés parfaitement en Jésus-Christ. Peut-être quelqu'un ce matin dira, moi je me reconnais dans tel ou tel fils. J'ai besoin d'entrer dans la présence de Dieu. J'ai besoin de rentrer à la maison et de jouir de la présence de mon Dieu. J'ai compris que Jésus-Christ a tout payé pour moi. Et que rien que le sacrifice de Jésus-Christ ne peut satisfaire la justice de Dieu. De sorte que pour l'éternité, c'est lui que l'on célébrera. Que son sang est efficace aujourd'hui encore pour me garder dans sa présence. Peut-être c'est votre cas. Si c'est votre cas, j'aimerais prier pour vous et là où vous êtes, vous pouvez lever votre main. Peut-être quelqu'un dit « Oui, je la vois ». Quelqu'un dira, vous pouvez la baisser. Quelqu'un dira peut-être, moi, je suis un frère aîné, propre juste. Mais aujourd'hui, je vois combien j'ai besoin de me repentir. Et je vais entrer dans sa présence. Et me réjouir avec tous les autres pécheurs. Seigneur, je te prie de bénir toute ton assemblée ici. Je prie pour que ton évangile pénètre nos cœurs, nous réjouisse, que semaine après semaine, jour après jour, on vienne avec joie dans ta présence parce qu'on est reçu simplement sur la base de ton amour, de ta grâce, manifestée en Jésus-Christ à la croix. Merci Seigneur mon Dieu.